Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
La une des grandes gueules du sport.
11 célibataires coupés du monde.
Les joueurs qui sont dans les sessions de l'après-midi savent exactement ce qu'il en est de leur situation. Et ce sont des joueurs professionnels que l'on doit respecter.
Philippe.
Loana.
Julia.
Jean-Edouard.
Canagay.
Sylvie.
Amber.
Kenza. Oh.
Et Christophe.
Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros.
On verra s'ils arrivent à trouver, eux, un projet qui leur convient ou s'ils vont souhaiter rester.
Dans 9 semaines, ils ne seront plus que deux. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez.
9h12 dans les GG. On remercie Geoffrey Charpille pour cette production formidable qui rappelle plein de souvenirs. Le loft, évidemment, ça a fait notre jeunesse. Vous en souvenez, messieurs, dames?
Ah bah oui.
Quand même.
Ah oui.
Bon, on accueille d'ailleurs quelqu'un qui a suivi ça de près, le loft, pas seulement l'émission. Arthur Perrault, qui suit l'actu du PSG au jour le jour, est avec nous. Il les suit jusque dans les boîtes de nuit. Salut Arthur.
Salut les grands gueules, bonjour à tous.
Dans un instant, tu nous feras le point sur comment fonctionne justement le loft au PSG. Il y en a aussi à Marseille, à Bordeaux aussi, des lofts cet été. Il y a plusieurs joueurs qui s'entraînent à part actuellement. C'est une pratique courante mise en place par les clubs qui veulent se débarrasser de certains joueurs indésirables. Le but, c'est les mettre sous pression pour les forcer à partir. Et c'est aussi utilisé parfois pour les joueurs qui refusent de prolonger. Alors cette question, les GG pour commencer. La création d'un loft dans les clubs professionnels est-elle choquante? Oui ou non? Marion Bartoli.
Non, pas du tout.
Pas du tout. David Douillet.
Ouais, je vais dire oui. Mais c'est un petit oui, voilà.
Un petit oui pour David. Manu Amoros.
Un gros oui.
Ah, un gros oui pour Manu.
Ah bah oui, normal.
Dans un instant, on sera avec Philippe Piac, au président de l'UNFP, le syndicat des joueurs professionnels, un sujet très important pour l'UNFP qui met en garde les clubs chaque été, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on en parle beaucoup cet été parce que c'est ce qui a été mis en place au PSG. Et justement, Arthur, tu es avec nous pour nous expliquer comment ça fonctionne, ce loft au PSG.
D'abord, il faut rappeler que c'est le premier choix fort du nouvel organigramme parisien, la mise en place de ce groupe de travail composé de joueurs écartés. Et c'est vraiment le mot qui est important puisque en coulisses du côté du Paris Saint-Germain, on ne veut pas parler de loft, mais seulement de joueurs écartés. Parmi eux, Kurzawa, Draxler, Herrera, Icardi, Rafinha ou encore Thilo Kehrer, tous présents dans une séance d'entraînement à part organisée l'après-midi au camp des loges, alors que les autres membres du collectif parisien, eux, sont présents à Saint-Germain-en-Laye le matin. Mais sur le terrain, l'application demandée par le staff parisien reste la même. Pourtant, ces indésirables sont tous invités à trouver une porte de sortie pendant le mercato estival. La raison, le board parisien veut maintenir un effectif autour de 25 joueurs. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces opérations sont pour l'instant compliquées en raison des montants des transferts et des salaires tous très élevés. Mais aujourd'hui, Paris est loin d'être une exception. Tu l'as rappelé, François, le choix d'un loft a aussi été fait à Lyon, à Marseille ou même à Amiens en Ligue 2.
Alors, tu restes avec nous, Arthur, pour préciser des choses, bien évidemment, s'il le faut. Je rappelle la question, la création d'un loft dans les clubs professionnels est-elle choquante? Et je retiens le gros oui pour sa première de Manu Amoros. Alors, on va te laisser la parole pour nous expliquer pourquoi tu dis oui à cette question.
D'abord, c'est déjà des professionnels, ils ont signé un contrat, donc on doit respecter ça. Et on a l'impression que les dirigeants, les entraîneurs ne respectent pas le joueur et la personne. Et puis, ne respectent pas non plus le contrat. Alors, on aura Philippe tout à l'heure, Pia, qui nous expliquera comment ça fonctionne. Parce qu'on n'a pas trop le droit non plus de laisser les joueurs de côté sans... de temps en temps intégrer la partie professionnelle. Mais quand Christophe Galtier dit la session de l'après-midi, moi ça me choque. Pourquoi on n'entraîne pas tous ensemble et après, à la veille du match ou avant le match, on prend les joueurs, les 18 ou les 20 qui vont être retenus par l'entraîneur et on part avec ces joueurs-là pour la mise au vert et bien sûr le match. Moi ça me choque parce que c'est des joueurs que ils ne s'entraînent pas comme s'ils s'entraînaient avec les autres. Mentalement, psychologiquement, ce n'est pas la même valeur d'entraînement. Et ça, c'est pas possible de laisser les clubs laisser les joueurs comme ça un petit peu dans la nature, parce que quand tu t'entraînes hors du groupe, c'est totalement différent. Et après, pour les mettre en valeur et pour les vendre, bah il faut qu'ils soient compétitifs. Donc si on s'entraîne à pas, je ne pense pas qu'ils soient compétitifs pour pouvoir partir. Et comme tu le disais aussi tout à l'heure, François, ils ont des salaires énormes, surtout au Paris Saint-Germain et à Marseille. On en reviendra tout à l'heure. Mais voilà, c'est pour moi, ça me choque beaucoup.
Ça te choque? Alors Marion a été sympa pour ta première, elle n'a pas voulu te couper. Pourtant, elle n'est pas du tout d'accord avec toi, Marion.
Ah bon? Ah ben, écoute, c'est bien, elle a raison.
Non, écoute, moi, ça me choque pas du tout, parce qu'en fait, et Nasser, ça l'avait bien exprimé, il y en a tellement, et en particulier, alors on prend le cas du PSG, mais c'est vrai que c'est forcément le club où il y en a le plus, et surtout avec la plus grosse masse salariale. Il y en a tellement qui ont usé et abusé du système, donc, qui mettaient des intensités d'entraînement plus que... sur courant alternatif, en forcément en ayant une hygiène de vie pas irréprochable, et qui touchaient quand même leur même salaire et qui faisaient partie du groupe, et qui peut-être à un moment donné le PSG s'est aperçu que finalement c'était plus des éléments perturbateurs que des éléments qui permettaient à l'équipe d'être tirée vers le haut et de chacun mettre énormément d'intensité, que moi ça me choque pas d'écarter ces gens. Alors tu peux les appeler comme tu veux, les écarter, les indésirables, mais le message envoyé, c'est de se dire que où effectivement ils changent totalement leur attitude, et il y a la possibilité de revenir dans le groupe principal si il y a beaucoup plus d'intensité à l'entraînement, un engagement bien supérieur, et qu'à un moment donné...
C'est pas une question d'attitude.
Tu vois, Kurzawa, j'ai pas l'impression qu'il ait une attitude exceptionnelle à l'entraînement et qu'il ait mis tous ses moyens en place pour arriver à jouer.
Mais on n'a pas mis le couteau sous la gorge du président pour signer le contrat. C'est lui qui a voulu signer les contrats avec des montants énormes en tant que salaire.
C'est le seul moyen qu'ait le club pour mettre de la pression aux joueurs pour qu'à un moment donné, le joueur se réveille. Donc, soit il le prend en disant, j'aimerais réveiller.
C'est la faute au président qui a demandé à avoir 30, 35, voire 40 joueurs dans son effectif. C'est pas la faute des joueurs. Les joueurs.
Aujourd'hui, c'est même plus que ça, puisque le PSG...
Ils veulent gagner leur vie.
Bien sûr, mais aujourd'hui, c'est plus que ça, puisque le PSG a 54 joueurs en contrat pro. Donc, de toute façon, ils vont être obligés de dégraisser leur effectif. Mmh. Mais pour moi, ce qui me choque, en fait, c'est plutôt l'attitude des joueurs, où à un moment donné, un staff est obligé de se dire, là, si on continue à les garder, ça va être perturbateur et ça va manquer au résultat de l'équipe, entre guillemets, principale. Et donc, on les pousse vers la sortie en leur mettant une espèce de pression psychologique. Alors, il y en a qui craquent, il y en a qui craquent pas. Ouais. Je pense pas qu'un Herrera va se dire, à 32 ans, en touchant quasiment 600 000 euros par mois, il lui reste encore 3 ans de contrat. Et il va pas se dire, je vais essayer de chercher un autre club. Il va continuer effectivement à faire ses entraînements avec le noyau B ou le loft, comme tu veux. Il va toucher 500 000 euros par mois, et puis il jouera pas. Et à 35 ans, il se dira éventuellement, je peux aller prendre une porte de sortie en MLS ou aller jouer dans un autre championnat qui va m'accueillir, parce que j'ai quand même un CV et jouer dans des grandes équipes. Mais il y en a, pour certains, ça va leur faire ni chaud ni froid, parce qu'ils sont dans une période de leur carrière qui les incite pas forcément à aller faire d'autres choix. Un Wijnaldum qui est un co-capitaine de l'équipe des Pays-Bas avec Van Dijk, lui, il a besoin de temps de jeu, parce que c'est une année Coupe du Monde, donc il a besoin de se dire, voilà, il faut que je joue en club, il faut absolument que j'aille me bouger les fesses pour trouver un prêt quelque part, donc il est obligé de partir en prêt.
Et tu penses
donc,
que
en fait,
certains,
il y a des cas différents, mais pour moi, ça me choque pas de se dire qu'à un moment donné, il y en a qui ont profité du système et que ça doit s'arrêter.
Alors, puisque tu parlais d'Ander Herrera, petite précision, puisque visiblement, il a accepté l'idée de rejoindre Bilbao, mais il souhaiterait d'abord trouver un accord financier avec le PSG, c'est-à-dire que le PSG lui paie ce qu'il lui doit pour la fin de son contrat avant de partir libre à Bilbao. Il a encore 2 ans de contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc ça, peut-être que ça rentre évidemment dans ton argumentaire, Marion. On va donner la parole à David Douillet avant de retrouver Philippe Pia, président de l'UNFP, qui est bien évidemment très intéressé par ce sujet. David, toi, c'était un petit oui. Donc tu te situes un peu entre Manu et entre Marion dans ce débat.
Oui, parce que en fait, on est sur... Je trouve que les clubs se tirent aussi une balle dans le pied, puisque en mettant de côté des joueurs qui, comme le dit Marion, peut-être certains, ne jouent pas le jeu parce qu'ils sont mis de côté, donc ils sont un petit peu à l'inverse de l'état d'esprit du club. Leur valeur diminue. Voilà. Donc s'ils veulent s'en séparer, autant les bonifier, autant les maximiser. Enfin, moi, j'aurais plutôt le profil à les intégrer à l'équipe, à les valoriser, à dire voilà, ce sont de fabuleux deuxième couteaux, on les met sur le marché, etc., etc. Et ils partiraient plus facilement, je crois. Après, il y a l'état d'esprit des joueurs. L'état d'esprit des joueurs, quand on fait de la compétition, ou alors on est un mercenaire, on va gagner un maximum d'argent en un minimum de temps, et puis ensuite partir dans une autre vie et faire autre chose, ou alors on est un vrai compétiteur. Et je pense que malheureusement, les athlètes qui se retrouvent dans ce confort où ils touchent un salaire sans avoir beaucoup d'ambition, bah, c'est malheureux pour eux, quoi. C'est triste. C'est triste de cacher leur talent, même si ils sont pas pris en compte dans ce club-là. Ils pourraient tenter l'aventure ailleurs et partir d'eux-mêmes et se maximiser ailleurs et vivre autre chose dans leur vie de compétiteur. C'est pour ça que cette histoire de loft, à la fois du côté des joueurs comme à la fois du côté des clubs, bah, je trouve que c'est un truc couillon. Tout ça reflète un truc qui est fondamental et qui on trouve très présent dans le monde du foot. C'est un manque de dialogue, c'est un manque de partage, c'est un manque de connexion entre humains. Voilà, encore une fois, les intérêts financiers, les intérêts des uns des autres dépassent les grandes aventures humaines. Et malheureusement, que ce soit les clubs ou les joueurs, ben ils passent à côté de quelque chose de grand.
Voilà. Oui. Alors on va demander à vas-y Marion, oui.
Oui, non, juste pour revenir sur l'Olympique de Marseille. Tu vois, il y a par exemple le cas Strootman. Bon, Strootman, il revient de son prêt à Cagliari. Pablo Longoria, il maudit tous les jours ce transfert fait par son prédécesseur. C'est pour lui, c'est un boulet qui se traîne en permanence. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le réintègres dans le groupe. Mais la gueule, il a pas joué un match, il est plus au niveau. Ou tu l'écartes et tu te dis, bah, voilà, on est obligé d'honorer son contrat parce qu'effectivement, ça a été signé et qu'on reprend ce dossier sur la tête et on fait ce qu'on en peut, mais on ne met pas dans le groupe principal. Mmh. Après, par exemple, tu prends un Jordan Amavi, c'est complètement différent. Tu vois, il y a une grosse altercation avec Tudor. D'un coup, l'entraîneur lui dit, toi, sous mon air, tu joueras plus jamais, donc t'es écarté complètement. Là, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et là-dessus, je rejoins Manu. C'est vrai que tu peux pas faire ça en tant qu'entraîneur non plus. Tu peux pas dire, parce qu'une fois, il y a une altercation, tu vas plus jamais faire jouer Exactement. Quelqu'un et tu l'écartes directement. Bien donc, il y a des cas différents. Mais il y en a certains qui ont quand même usé et abusé du système.
Alors, on va demander à 9h22 dans les GG à Philippe Pia, président du NFP, de se positionner sur ce débat. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour Philippe.
Vous avez Bonjour. Déjà mis en garde le PSG hein, sur la constitution d'un loft et puis les autres clubs. Il n'y a pas que le PSG, on l'a dit. Hein, plusieurs clubs utilisent cette méthode. Est-ce que d'abord cette mode un petit peu du loft, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas de ces joueurs mis à l'écart, est-ce que ça vous inquiète, vous, en tant que coprésident du syndicat des joueurs?
Oui, ça m'inquiète terriblement. Mais avant, je voudrais savoir, quel temps vous me donnez pour m'expliquer? Parce que suivant la durée où je peux intervenir...
Alors, pas une heure.
Alors, c'est une émission très timée, non, alors, donc il faut être efficace, Philippe.
Je vais essayer d'être concis. La première chose, un joueur qui est dans un club qui fait exprès de ne pas jouer, pas avoir envie de jouer, je pense que ça n'existe pratiquement pas. Quand un joueur, on l'accuse d'avoir un mauvais esprit, c'est quelque part à l'intérieur du club. Soit on ne le fait pas jouer, il est dans un loft. Il a des problèmes personnels qui font que peut-être il n'est pas à 100%. Mais un joueur, moi j'ai été joueur de foot il y a quelques décennies, quand l'entraîneur ne me faisait pas jouer, je peux vous dire que je n'étais pas content. Donc ça veut dire qu'un joueur, il a envie de jouer. Cela dit, il faut s'attacher à ce qu'est le système. Je voudrais répondre à Marion Bartoli d'ailleurs pour dire que tous les joueurs ne sont pas fortunés. Si on veut comparer un joueur dans un club comme Paris Saint-Germain ou celui de Nîmes ou de Angers, c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qu'il faut incriminer? Il faut incriminer le système. Pourquoi des clubs ont, l'année dernière, il y a deux ans, il y avait notamment un club français qui avait 73 joueurs sous contrat. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un club qui a 73 joueurs sous contrat va pouvoir les faire jouer?
C'était
non.
Monaco.
Et alors la question, c'est pourquoi un club il a 73 joueurs? Sinon, si vous écoutez le président de la Ligue, vous écoutez la direction technique nationale, vous écoutez la DNCG, vous écoutez le rapport parlementaire de Joannico et Roussel, et vous vous apercevez que tout le monde recommande d'avoir environ 25 joueurs. Si on arrive à 40-50 joueurs, on est forcément devant...
Oui, mais Philippe, personne n'oblige le joueur qui est déjà... Oui, c'est très bien dans le club, il y en a déjà 70 qui ont été signés, à venir continuer à signer à Monaco.
Ah non, mais une fois qu'ils ont signé leur contrat à durée déterminée, pardon, ils appartiennent au club. Et pourquoi
c'est
le club...
Mais personne ne les oblige à venir. C'est eux qui décident en état de cause de se dire,
non,
effectivement,
non,
même
non,
si le noyau
non,
est important,
non,
je vais
non,
quand même
non,
jouer.
Non. Pas du tout. Laissez-moi m'expliquer. Un joueur, quand un club va le chercher, il veut lui faire signer un contrat de la durée qu'ils veulent, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pour l'avoir, il lui offre un salaire. C'est pas lui, on lui met pas un pistolet sur la tempe au président pour accepter le montant du salaire. Sinon, il dit, je le prends pas. Donc, il le prend pour une durée déterminée avec un salaire éventuellement conséquent. Au cours de ce contrat, le club veut recruter d'autres joueurs, ils estiment qu'il faut changer l'équipe. Parfois, si l'entraîneur qui arrive, un nouvel entraîneur, il dit « toi, toi, toi et toi, je te veux pas, je te ferai plus jouer », alors qu'ils sont sous contrat, comment c'est possible de dire ça? Et pourtant, c'est ça qu'il fait. Et pour quelle est la raison de ça? La raison, c'est que les clubs veulent faire du trading. Du trading, c'est vendre des joueurs. Donc, ils prennent le maximum de joueurs en se disant « s'il y en a un qui est pas bon, je trouverai bien ». J'allais dire un mauvais mot. Je vais le dire. Je trouverais bien un connard qui va me racheter mon joueur.
Un pigeon. Et donc, on peut dire oui.
Donc voilà ce qui se passe. À l'inverse, quand un joueur est bon, on l'a vu, un joueur du PSG. Je ne veux pas citer, c'est pas la peine sur l'antenne. On a vu quand un joueur il est bon, qu'il arrive à la fin de son contrat. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le loft, il n'est pas seulement pour des joueurs qui jouent mal ou qui veulent pas faire le maximum. Il est aussi pour des joueurs dont on veut se séparer pour l'envoyer en Turquie, en je sais pas où, parce que on n'a plus envie de lui. Et donc, aujourd'hui, on dit, celui-là, ce joueur, s'il part pas, le club va faire faillite. On lui met la responsabilité sur le dos de plein de choses. En plus de ça, on le menace. On lui dit que s'il baisse pas son salaire, on va lui mettre des contraintes. Alors que, le salaire qu'il a, pourquoi il a un salaire élevé? Il faut le savoir parce que ça, c'est le début de l'affaire. Quand un joueur ne veut pas re-signer, c'est quand même son droit normal, hein, il arrive à la fin d'un contrat, il a le droit de dire « je ne veux pas prolonger ». Qu'est-ce qui se passe? On va lui dire « si jamais tu ne prolonges pas, tu vas être menacé d'un certain nombre de choses, ou alors… » de ne pas jouer, c'est le principal. Ou alors on va te doubler le salaire. Le joueur, il réfléchit. Il dit non, je suis pas d'accord, je veux partir. On va te tripler le salaire. On lui triple le salaire. Pourquoi faire? Pourquoi on lui triple le salaire? On lui triple le salaire pour qu'il renouvelle son contrat.
Pour qu'il re-signe, ouais.
Pour qu'il re-signe. Et pourquoi pour qu'il re-signe? Parce que s'il est à la fin de son contrat, il est libre de partir où il veut. S'il n'est pas à la fin de son contrat, ouais, puisqu'on vient de lui renouveler en lui mettant un salaire très important, c'est pour le vendre l'année d'après. Philippe. Donc ça veut dire que le club il fait une inflation des salaires, non pas parce que le joueur est très bon, il fait une inflation des salaires pour pouvoir le vendre.
Philippe.
Alors la solution, juste je termine, la solution devrait être, dans ces conditions, un joueur il joue mal, il joue pas mal, on lui a prolongé le contrat, lui a augmenté le contrat, il faut en anglais une buy-out clause, c'est-à-dire que quand un club il ne veut plus d'un joueur, il calcule, il lui te reste 24 mois à faire à 10 000, à 50 000, ça fait tant, je te donne tant, tu te barres. Ou le joueur, il dit, moi, je ne me plais plus dans ce club parce que l'entraîneur, il ne m'aime pas, il ne me fait pas jouer. Je dois 24 mois au club, multiplié par tant, je vous dois. Et le problème, il est réglé.
D'accord. Alors, on a bien compris la solution.
Il faudrait avoir
de
des contrats d'un an, alors.
Je remercie Philippe.
Non, même 2 ans, 3 ans.
Merci beaucoup,
ouais,
Philippe, d'avoir ces cours.
Tu te mets dans la
banane. Juste, puisque Philippe, une question quand même très simple. Et là, bon, on va essayer d'être un peu plus court, Philippe, mais merci beaucoup pour toutes ces explications. Je rappelle qu'au président de l'UNFP, juste sur ce sujet-là, on rappelle qu'après la fin du mercato, donc 1er septembre, fin du mercato, les joueurs qui sont dans un loft doivent être réintégrés. On est d'accord, hein ? On est d'accord,
oui,
Philippe.
Absolument. Voilà. À partir du 1er septembre, ils doivent être réintégrés. Si jamais il y a un problème pour l'entraîneur, justement, pour former une équipe, d'avoir quelques joueurs seulement à un entraînement, ça peut se faire de manière exceptionnelle. Mais ça ne peut pas être pour des raisons qu'on évoque, c'est-à-dire le menacer pour de transferts, de baisse de salaire, oui, de sanctions. C'est juste parce que l'effectif étant trop élevé, il faut, pendant le vendredi avant le match, il faut peut-être que certains joueurs soient mis dans un groupe numéro 2.
D'accord. Bah, merci beaucoup, Philippe, en tout cas, d'être passé dans les GG. À très bientôt.
Merci.
Merci beaucoup. Alors effectivement, on pourrait faire ce débat encore des heures.
Mais François, juste parce qu'il y a des entraîneurs qui demandent au président, ils mettent la pression sur les présidents pour avoir entre 35 et 40 joueurs sous le coude et pour pouvoir les entraîner. Mais il y en a d'autres qui préfèrent jouer et s'entraîner avec 23, 24 joueurs.
C'est le cas de Christophe Galtier. Juste pour préciser quelque chose, puisqu'on en a parlé, et ce sont les faits, Kurzawa, il a prolongé de 4 ans en 2020, avec revalorisation salariale à l'époque, alors qu'il arrivait en fin de contrat. Et puis Draxler, il a prolongé de 3 ans en 2021. Et aujourd'hui, évidemment,
effectivement, tu l'as dit, François, mais je pense qu'il y a des erreurs qui ont été faites et qu'ils en ont juste eu tellement marre de se faire taper sur les doigts et d'avoir cette mauvaise image du côté du PSG, que maintenant ils veulent prendre des décisions entre guillemets très drastiques et prendre le contre-pied de tout ce qu'ils ont fait auparavant. tu peux pas forcément, dans une démarche globale, leur dire qu'ils ont complètement tort. Après, par contre, qu'il y ait des lois et des règles et qu'on puisse pas faire n'importe quoi avec les joueurs et qu'heureusement, justement, ils ont un syndicat qui les défend, ça c'est très bien. Mais effectivement, par contre, le PSG envisage pour ceux qui resteront sur le carreau à partir du 1er septembre, qui n'auront pas trouvé de porte de sortie, de les faire jouer en N3.
Ouais. Avec la N3. Et on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, dans les GG. Merci beaucoup, Arthur.